할렐루야. J'aimerais partager avec vous une parole qui a suivi un itinéraire un peu particulier ces derniers mois. Nous avons eu le culte de Noël au début, enfin, dans la première quinzaine de décembre. Et Christine, comme souvent, nous a distribué des versets. C'est ça? Certains d'entre vous l'ont peut-être reçu. Et moi, j'ai reçu un verset pendant le culte. Et je l'ai lu et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je l'ai plié et je l'ai rangé dans ma Bible. Et dans la semaine, j'ai ouvert ma Bible à un moment donné et je suis retombé sur ce verset. Et je l'ai relu. Et tout à coup, je me suis rendu compte de l'importance et du cheminement que Dieu voulait me proposer dans les temps qui venaient. Donc, c'était la veille du jour de l'an, dans les quelques jours avant la nouvelle année où l'on prend plein de bonnes résolutions, vous savez. Moi, ça fait que au moins 20 ans que j'ai décidé de perdre au moins 8 kilos. Donc là, j'ai dû perdre à peu près 180 kilos. J'espère que vous vous en rendez compte. Et quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, mais oui, c'est une parole essentielle où Dieu me montre un chemin. Et j'aimerais vous proposer ce chemin-là, parce qu'il me semble vraiment être un chemin. Alors, dans ce que je vivais quand j'ai appris mon premier métier, on appelait ça un process. C'est un process qui est essentiel. Chacun d'entre vous, vous avez dans vos activités professionnelles des process qui sont en place. Je vois certains visages, j'imagine que quand on tient un magasin, il y a des process pour mettre en place en rayon, de garantir la fraîcheur, etc. Pour les infirmières, il y a des process pour faire certains types de soins, pour les aides-soignantes, quand elles sont en état. Il y a des process pour lever une patiente, pour la faire sa toilette, etc., etc. Alors là, je vais vous proposer un verset. Comme ça, je suis sûr que vous sortirez en ayant au moins en mémoire un verset qui parle d'un process essentiel. Tu peux l'afficher? Et on va le laisser afficher tout au long de ce temps de partage. C'est une parole qui est tirée de l'Épître aux Philippiens, une lettre que Paul a adressée à l'église de Philippe. C'est une église qui était en bonne santé. Si vous lisez la lettre aux sept églises dans l'Apocalypse, cette église-là est plutôt en bonne position et ce qu'il en est dit est plutôt positif. Paul est en prison, en tout cas incarcéré, lors d'un de ses voyages pour. Je dirais la foi qu'il développe et les églises qu'il développe dans l'Empire romain. Néanmoins, c'est certainement, on appelle l'épître aux Philippiens de Paul, l'épître de la joie. On se dit, dans les circonstances qu'il connaissait, c'était quand même particulier de pouvoir diffuser, développer la joie du salut alors qu'on est en prison. Néanmoins, cette épître est une épître très belle et très positive et qui réjouit notre cœur. Et le verset que j'ai reçu est celui-ci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix, le Dieu de la paix sera avec vous. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mon premier métier, c'était d'être mécanicien en aéronautique pour Dassault. Je me dis, je ne sais pas s'il reste encore des avions qui volent, des Mirages ou des avions de chez Dassault qui volent encore avec des pièces que j'ai fabriquées. Mais en tout cas, à chaque pièce que je devais fabriquer, je recevais un plan. On était dans une immense usine avec plusieurs centaines d'ouvriers. On avait un plan et on avait un process en disant première étape, deuxième étape. Et à la fin, on sortait 100, 200, 300, 400 pièces identiques en suivant le même process sur chacune de nos machines. Et pourquoi dis-je que c'est ici un processus spirituel qui m'a interpellé ? Parce qu'en grec, il y a un petit mot qui n'est pas forcément traduit à chaque fois dans ce verset en français. Et ce petit mot, c'est « et ». « Kai emathete »,« kai parelabete », »,« kai ekuthate », »,« kai aisete enemoi », »,« taota prasete », Kai oteos tes aerenes estai meth humon. Et en fait, on est dans ce verset, non pas avec une phrase en français qui comprend des virgules, il n'y a pas de point et de virgule en grec, mais il y a un mot qui sert du passage d'une étape à une autre, c'est le mot et. Et en fait, si on devait traduire en mot à mot ce verset, ce serait appris et reçu et entendu et vu en moi, pratiquez et pratiquez-le. Je le redis. Appris et reçu et entendu et vu et pratiquez-le. Vous avez chaque étape d'un processus pour aboutir à ce dernier passage ou cette dernière étape et Kai et la paix de Dieu sur vous ou en vous. Chaque étape. Alors, je me suis intéressé à ce processus. Un processus dans lequel nous sommes invités à rentrer. La première étape qui nous est proposée, c'est d'apprendre. Le titre de la prédication, je l'ai fait simple. Apprendre, recevoir, entendre, voir, pratiquer. Alors j'ai dit à Christophe, essaye de mettre ce titre-là. Et s'il y a encore de la place, tu mets apprendre, recevoir, entendre, voir, pratiquer et la paix sur vous. C'est simple. Amen. Ben, je crois qu'on peut passer au repas du Seigneur. Non ? Apprendre. Donc, quand j'ai reçu ce verset il y a près de 2 mois et demi, lors de la fête de Noël, je l'ai lu rapidement, et puis je l'ai ensuite placé, comme je le disais, dans ma Bible. Et c'est le lendemain, je crois, quelques jours en tout cas, que je l'ai relu avec plus d'attention. Et vraiment, cette parole m'a paru très pertinente, mais également apparemment contre-productive. Je m'explique. À quel chrétien pouvons-nous proposer un itinéraire spirituel qui conduirait à la paix et dont la première étape serait d'apprendre ? Apprendre. Et là, je vois un professeur qui dit « Mais c'est essentiel d'apprendre. On a plusieurs professeurs dans l'Église. Apprendre. » Mais quand on dit cela dans l'Église, que la première étape pour arriver à la paix, c'est d'apprendre. Waouh ! Tu veux recevoir la paix ? Il faut d'abord apprendre. C'est pas l'étape la plus glamour, la plus enthousiasmante. Et pourtant, l'apôtre Paul commence par là. Ce que vous avez appris. Donc, il faut apprendre. Et je me souviens d'un débat dans l'équipe pastorale il y a quelques années. Lorsqu'on s'est demandé s'il fallait conserver l'appellation école du dimanche pour le temps consacré à l'accompagnement des enfants pendant le culte. École du dimanche. On a eu un débat. Et on se demandait si la notion d'école, c'est-à-dire d'espace d'enseignement obligatoire et contraint pour les enfants, 5 jours par semaine, n'était pas un terme avec une connotation négative au sein de l'Église. Et dire à des enfants, bon, viens à l'Église, il y a école. Oula ! Est-ce que les enfants vont se dire, ah oui, amen, j'y vais tout de suite. Maman, emmène-moi à l'école du dimanche. Alors on s'est questionné, est-ce que ce n'est pas contre-productif de dire à des enfants qu'on emmène à l'école, à l'église, bon, il y a école du dimanche aujourd'hui. De la même manière qu'on dit à des chrétiens, tu veux avoir la paix, on va commencer par apprendre. Hein? Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'animation, une animation pour apprendre à connaître Dieu plutôt qu'une école du dimanche, ou bien une catéchèse, alors ça renvoyait à d'autres connotations, catéchèse, ce n'était pas un choix plus heureux à mon sens, ou en tout cas au niveau de l'équipe. Donc voilà, on a hésité comme ça, mais ça montre bien que apprendre n'est pas forcément la chose dans laquelle on est spontanément engagé à aller ou vers lequel aller pour découvrir la paix. Or, le processus que nous propose Paul, c'est de commencer par apprendre. Mais apprendre quoi ? Si je propose aux adultes qui me font face d'envisager un itinéraire vers la paix qui commencerait par une étape centrée sur le fait d'apprendre, je ne doute pas que certains d'entre vous viendraient me voir ensuite pour me dire « Écoute, Jean-Marc, je voudrais savoir, est-ce que la paix, c'est comme pour les voitures, est-ce que c'est une option obligatoire dans la vie chrétienne ? Parce que apprendre, ça ne m'emballe pas. Hein ? Est-ce qu'une autre option pourrait être demandée qui ne nécessiterait pas d'apprendre ? Chose plus facile, un chemin plus aisé. Après tout, lorsqu'il s'est séparé de ses disciples, Jésus a simplement soufflé sur eux et puis leur a dit... dans l'évangile de Jean, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Bah, finalement, s'il suffit simplement que Jésus souffle sur nous, moi ça me va bien, hein, c'est facile. Pas besoin de s'asseoir et d'apprendre. Pas besoin d'avoir un itinéraire pour apprendre à connaître Dieu, à le découvrir, à découvrir la relation que je peux avoir avec lui. Dans ce verset de l'Épître aux Philippiens, « Vous avez appris ». Alors, en grec, ce verbe « vous avez appris », c'est un temps de conjugaison en grec qu'on appelle « l'aoriste », c'est-à-dire un passé indéterminé. « Vous avez appris ». Mais dans le grec, il y a ce qu'on appelle une voix. C'est-à-dire « vous avez le temps et vous avez la voix ». Et cela, dans ce verset-là, le « vous avez appris », c'est... une voix qui s'appelle la voix active. C'est-à-dire que cela signifie que c'est le sujet qui fait l'action. Vous avez appris. C'est le sujet qui apprend, qui fait l'action. Ce n'est pas innocent comme indication en grec. C'est-à-dire que dans le « ce que vous avez appris », vous savez, dans notre mentalité, notre pensée, on a le sentiment que quand on apprend, on s'assoit, on ne fait rien et on laisse quelqu'un nous remplir. C'est ça, bien souvent, la conception de l'apprentissage. Or, le grec dit non, non. Vous avez appris, c'est-à-dire que vous êtes mis en position et dans une attitude d'apprenant. Vous voulez être acteur de cet apprentissage. Pour aller vers la paix, obtenir ou vivre la paix, je dois me mettre en action, en position d'apprendre. Ah, est-ce que tout le monde est en position pour apprendre, là, ce matin ? Oui, ça y est. Ouais. Oh, je vois des visages qui disent, je sais pas encore. Ça va dépendre de ce qu'on va m'apprendre. Moi, j'imagine la tête de Michel ou de Laurence à l'école qui scrutaient les visages de leurs élèves et en les regardant, dire, ah, est-ce que lui, il est en train d'apprendre ou est-ce qu'il est en position, en attitude pour apprendre ? Ou les infirmières dans l'éducation thérapeutique. Est-ce qu'il a envie d'apprendre ? Ou est-ce qu'il est là et il attend que l'heure et que la cloche sonne ? Et ça se voit sur le visage. Ils disent, bon, c'est quand la Sainte Cène ? Non, il n'y a pas ça parmi nous, non ? Si ? Hein ? Ce qui complique la position des enseignants et avec eux les lieux de formation, c'est que l'évolution de la société, c'est mon analyse, a fait reposer sur les épaules des enseignants la responsabilité et la réussite de l'apprentissage de l'élève. Ce sont les enseignants qui sont responsables de la réussite de l'élève. Celui-ci, il est plus actif, il est plus considéré comme actif, il est comme un vase, comme cela, que l'enseignant doit remplir. L'élève, s'il est là, normalement, il fait l'essentiel. L'élève n'est plus actif, il n'est plus acteur de son apprentissage. Il dépendrait de la qualité de l'enseignant, qui, lui, doit être le seul acteur efficient. Dans l'Église, c'est la même chose. Moi, je grandirais bien, j'apprendrais bien, mais le pasteur n'est pas terrible. Et puis l'ancien qui fait l'enseignement, ou Francine quand elle enseigne. Pff, ouais, moi j'apprendrai bien, mais faut faire avec, quoi. Hein? Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il suffit de s'asseoir sur la chaise pour grandir et apprendre. Non, il faut, comme le dit ce texte de Philippiens, apprendre en étant dans une position d'acteur. Je suis là pour apprendre. Ah, c'est. Je pense que toute sa carrière, Michel a vu des élèves qui étaient dans cette position-là. Dès qu'il rentrait dans la classe, il voyait bien que tous les élèves étaient là. Alors, monsieur, enseignez-nous, on a envie de savoir. Ça a été ça toute ta vie. Tu parles, Moïse, je parle. Ah ouais. Mais vous savez, il en va de notre société comme de l'Église qui est influencée par elle. On pense qu'on n'a pas à être en position d'action dans le fait d'apprendre. Or, l'apôtre Paul dit ce que vous avez appris de manière active, en le voulant. Ça introduit un principe essentiel et indispensable pour obtenir la paix. Je dois vouloir apprendre. Waouh ! Je dirais même que Dieu s'attend à ce que je me tienne à ses côtés et que je manifeste mon désir de le découvrir, d'apprendre les valeurs de son royaume. Au jardin d'Éden, la pensée de Dieu au commencement, c'était que l'homme accepte d'apprendre dans une dépendance vis-à-vis de lui. Voilà ce que je te propose, Adam, ce que je te propose, Ève, c'est que tu découvres les valeurs de mon royaume en marchant à mes côtés. Tu ne prendras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que c'est un raccourci qui t'éviterait, que tu utiliserais pour ne pas apprendre en étant à mes côtés. Ça, c'était le plan de Dieu. La démarche qui est proposée au jardin d'Éden, c'est apprends ce qui est bien et ce qui est mal, les valeurs de mon royaume en étant côte à côte avec moi. Oui. Et l'être humain a préféré manifester le choix de ne pas apprendre de Dieu. Alors certains objecteront qu'il n'y a pas à apprendre. Il suffit d'avoir la foi. Voilà, une fois qu'on a la foi, tout est réglé. Moi, je reconnais que la foi précède la connaissance. La foi précède la connaissance. La connaissance des choses, des principes du royaume de Dieu. Mais si la foi précède la découverte des choses du royaume, nous sommes invités à explorer le monde qui nous est promis. Un peu comme Israël entrant dans la terre promise. Un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, apprenant à découvrir ce qui était la création de Dieu. Je crois que Dieu est là, en jardin d'Éden, pour me faire découvrir la richesse de son royaume, de la vie. Je crois, disait Josué, que la terre promise qui est devant moi est une terre promise bonne dans laquelle Dieu va me faire... Je crois, j'ai la foi. Comment je fais ensuite pour découvrir cette terre promise? Comment je fais pour découvrir la vie que Dieu m'accorde en lui, en lui. Apprendre pour éviter que notre intelligence ne soit guidée uniquement par des valeurs de la chair ou de notre humanité, c'est-à-dire que cela nous fasse échapper aux valeurs du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Quand Jésus souffle et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, il est là pour nous apprendre à voir ce que nous sommes et ce qui est autour de nous d'une manière différente, selon le regard de Dieu, de devenir et de grandir en tant qu'être spirituel. Hein? Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette éducation du Saint-Esprit pour bouleverser nos convictions humaines, nos croyances humaines, les croyances de la chair? Cette semaine, on a eu la journée de la femme qui a été célébrée. Oula, je le redis. Cette semaine, nous avons eu la journée du droit des femmes. Ce n'était pas la journée de la femme, hein, du droit des femmes dans le monde entier. Et lorsque nous célébrons la journée des droits de la femme, on ne peut pas contester, nier, que ce monde véhicule des valeurs où ce qui règne, c'est la loi du plus fort. Des sociétés où il est voulu et décidé d'écraser les plus faibles. Et les femmes font partie, dans notre société, des êtres qui sont écrasés. Il ne se passe pas une journée sans qu'une, deux femmes soient tuées dans le cas d'un féminicide. Les droits des femmes ne sont pas respectés, y compris dans notre pays. Ce sont les valeurs de la chair, du monde. Et ce que nous avons à apprendre, c'est les valeurs du royaume de Dieu. Et je pense que l'Église, et là c'est un aparté, a les mêmes enjeux à vivre. On voit bien dans le monde la réaction de révolte que nous devrions avoir lorsqu'en Afghanistan, dernièrement, des hommes ont assumé le fait de gazer des jeunes filles plutôt que de leur permettre d'aller à l'école. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais comment ne pas être en colère aussi en se disant que nous avons à apprendre les règles du royaume de Dieu, y compris ici, y compris dans ce lieu, en disant « Il est juste et bon que l'homme et la femme soient égaux. » Comment rester indifférent au fait que, dans certaines églises, y compris dans l'Église apostolique de France, il soit encore considéré comme normal que les femmes n'ont pas accès au ministère? C'est ma position. Je crois profondément qu'il s'agit ici d'un acte de violence qui n'a rien de spirituel et que nous acceptons. J'ose affirmer. Alors, c'est une formule que j'ai posée. J'ose affirmer que le royaume de Dieu n'est pas genré. Le royaume de Dieu n'est pas genré. Il n'y a pas des promesses qui sont faites pour les hommes et des absences de promesses qui ne seraient pas faites pour les femmes. On parle beaucoup du genre dans les écoles, dans l'éducation. Mais on ne regarde pas avec attention le fait que le royaume de Dieu dans beaucoup de nos églises sont genrés. Est-ce ce que le Saint-Esprit nous dit? Apprendre et recevoir. Et recevoir. Pour apprendre, il faut accepter de recevoir. Vous savez, je pense qu'il y a dans les lieux d'apprentissage des vases ouverts avec un beau couvercle par-dessus. Vous pouvez verser de l'eau. C'est fou ce que ça prend comme temps pour les remplir. Je crois qu'il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui disent « Je veux apprendre ». Mais il y a un couvercle de croyance, de conviction, d'assurance qui font que le Saint-Esprit a beau vouloir verser en moi ou en eux, le couvercle que je laisse dans le vase que je suis empêche toute chose de remplir ma vie. Alors, j'avais un ami pasteur africain à Colding qui utilisait cette formule en parlant des Occidentaux. Il disait, vous savez, vous Occidentaux, je cherche la formule, Dieu ne peut pas vous remplir. Vous êtes déjà tellement plein de vous-même. de vos assurances et de vos croyances.
Waouh !
Et c'est vrai qu'avec Michel, on a beaucoup appris de nos frères africains, parce que quand ils venaient au collège biblique, je vous assure qu'ils venaient pour apprendre. Pour apprendre de Dieu, pour laisser le Saint-Esprit. Ils disaient, mais vous, pour vous, c'est plus compliqué, parce que vous êtes déjà tellement remplis de vous, de vos croyances, de vos assurances, de vos certitudes.
Ouais.
Pour apprendre, il faut accepter de recevoir que des choses que nous ne possédons pas, des valeurs que nous ne possédons pas, remplacent les choses anciennes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 11, il est dit ceci. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous savez à qui s'adresse Jésus ? À Nicodème. À Nicodème. Nous disons ce que nous savons. Nous avons reçu et accepté et intégré des choses nouvelles. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ce n'est pas des choses dont nous sommes étrangers. Nous l'avons vu. Mais vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas. Le problème de notre humanité, de notre personne, c'est que nous pouvons être confrontés à la vérité jour après jour, semaine après semaine. Mais si nous ne recevons pas, toutes les plus belles vérités ne servent à rien. Ah ! Nous disons ce que nous savons et vous ne recevez pas. Le principe de recevoir est la condition pour que je puisse changer et être transformé. Accepter de recevoir, d'être déstabilisé, de sortir de mes zones de confort. L'apôtre Paul a vécu cela. Il était ancré dans sa culture, son savoir, son identité. Dans l'épître aux Romains, il dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Ah tiens, sans intelligence. Aux Galates, il dira « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Ah oui. En fait, Paul n'était pas changé. Il vivait sur les acquis de ses pères, de sa culture. Oh, notre culture est importante. On a eu Meshuaï qui nous a parlé de la culture à Taïwan, du regard. Notre culture est importante. Notre identité culturelle est importante. Mais elle ne doit pas être un obstacle aux choses nouvelles que Dieu veut déposer en nous. Je dirais même mieux, il s'agit que notre identité d'être humain, culturel, puisse être purifiée. Purifiée. Pour que ce qui est bon et juste demeure, et ce qui est négatif puisse être enlevé. Recevoir. Toute vérité non reçue par le cœur, comme par l'intelligence, est inutile. Si je ne reçois pas une vérité avec le cœur et l'intelligence, et je crois au travail de l'intelligence, mais pas uniquement, il faut que le cœur joue son rôle aussi. Alors, si le cœur et l'intelligence ensemble acceptent de recevoir, la transformation est possible. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà. Aller vers la paix, c'est cela. Rentrer dans le salut. Encore faut-il que je puisse apprendre et recevoir avec l'intelligence et le cœur. Il y a un proverbe turc que j'aime beaucoup. Un proverbe turc qui dit « N'accepte pas le cadeau qui ne te plaît pas, mais ne le refuse pas de qui t'aime. » C'est beau ça, non ? « N'accepte pas le cadeau qui ne te plaît pas, mais ne le refuse pas de quelqu'un qui t'aime. » Vous savez quoi ? Moi, je sais qui m'aime. Mais quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi à accepter. J'ai été rejeté du fait de ma couleur, parce que j'étais beaucoup plus typé comme vietnamien que comme français. Donc j'ai subi du harcèlement pendant des années à l'école. J'ai été rejeté, on m'a craché dessus, on m'a battu, parce que je n'étais pas foncièrement français et blanc. Je n'ai pas connu mon père biologique. J'ai été placé en nourrice par la DAS à l'âge de 7-8 ans. Donc savoir que j'étais aimé, comme je disais il y a 15 jours, ce n'était pas une évidence pour moi. Jusqu'au jour où j'ai reçu ce cadeau d'un Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit « Mais tu sais que je t'aime de toute éternité et que je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon fils pour toi. » Cette semaine, j'ai un homme qui m'a appelé pour me dire « Je voudrais que vous priez pour moi parce que je suis malade. » Je dis « Ok. » « Vous priez pour les malades ?» Oui, bien sûr. Et on s'est retrouvés ici pendant... Je pensais que ça durerait une demi-heure, trois quarts d'heure. On est restés à partager ensemble pendant 2h30. Et pendant 2 heures, on a parlé du cadeau qui a été fait dans la personne de Jésus. Et cette personne était là en me disant « Mais... j'arrive pas à croire que Jésus puisse être Dieu lui-même. » C'est pas la première fois que j'entendais ça. Il me dit, pour moi, c'est quelqu'un qui a été créé par Dieu, sans faute, sans péché, etc. Et même si c'est quelqu'un qui a été créé, ou un être qui a été créé pour se donner par sacrifice, ça n'en donne que plus de valeur à ce sacrifice de cet être-là qui s'appelle Jésus. Puis je l'écoutais. Je dis, ouais, ça serait remarquable. Et j'ai repris la parole en disant, mais imaginez que celui qui est venu en chair, ce soit Dieu lui-même. Est-ce que ce serait pas encore plus formidable et exceptionnel, extraordinaire, que Dieu lui-même ? Et nous avons relu le prologue de l'évangile de Jean, nous avons lu ce que j'avais fait il y a quelque temps en arrière. Et vous savez ce qui s'est passé ? Entre quelque chose ou quelqu'un qui était créé parfait pour se donner et Dieu qui venait pour se donner dans toute sa sainteté en tant qu'homme au milieu des hommes, à ce moment-là, j'ai vu des larmes couler. Et cette personne a commencé à pleurer en disant « Oui, si c'est Dieu qui vient et qui se donne, ça dépasse mon entendement. » Il a commencé à pleurer. Ouais. Accepter ce cadeau. Parce que je ne peux pas le refuser, parce que celui qui me le donne m'aime. Apprendre, recevoir. Et puis, il y a ces deux mots qui disent, qui sont ensemble, c'est kai ekousate. Kai Aïdete, c'est ce que vous entendez et vous avez vu. Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu de moi, voilà, c'est cela qui doit fonder la démarche que vous êtes en train de faire pour aller vers la paix. Est-ce que entendre et voir, c'est ce que Jésus dit, hein, ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas. On a entendu, je vous répète cela, nous l'avons vu, je vous dis ce que nous avons vu, ce qui est du royaume de Dieu, et vous ne l'acceptez pas, vous n'acceptez pas ce témoignage. Entendre et voir, parce que Dieu est un Dieu de révélation, qui veut se faire connaître. Il veut nous faire entendre, il veut nous faire voir et nous dire que le témoignage qui est donné, c'est que Dieu veut au travers de cela dire « Je veux me révéler ». À toi. Le drame de la chute, c'est un drame qui interrompt le plan de Dieu par rapport à la création. Dieu voulait entrer dans une relation et une communication avec l'être humain, Adam et Ève. Et le sacrifice de Christ n'a pas d'autre objectif que de nous faire à nouveau entrer dans une communication, une relation, une communion avec lui. Amen. Alors, est-ce que nous voulons aussi faire en sorte que ce qui a été entendu, vu du royaume de Dieu, nous le recevions et qu'à partir de là, nous puissions entrer dans cette dimension du royaume de Dieu dans notre vie. Nicodème, après cette rencontre de nuit avec Jésus, il est rentré là-dedans. Ça a transformé sa vie. Lui qui était rempli des certitudes d'un maître, je dirais, de la loi, quelqu'un qui connaissait les Écritures, etc., tout à coup, il a entendu et vu des choses qui ont transformé sa compréhension de ce qu'il était et de ce que pouvait être sa relation avec Dieu. Alors, ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu et entendu et vu, pratiquez-le. Waouh ! Alors, non seulement il faut pratiquer, mais il faut apprendre, mais après, il faut le pratiquer. C'est bien compliqué. J'ai raison, tu as raison. Vaut mieux croire simplement. Avoir la foi, ça suffit. Avoir la foi, ça suffit. Ça devient trop compliqué de vivre avec Dieu. Pratiquez-le. Vous savez, je pense aux élèves qui seraient en classe et qui disaient « Bon, monsieur, vous avez raison. Tout ce que vous dites, vous avez raison. Mais je n'ai pas envie de le mettre en pratique. » Alors, je pense aux travaux pratiques que Michel pouvait faire. Que les élèves apprennent, c'est une chose. Après, ils devaient le mettre en pratique dans des ateliers, etc. Savoir que quand on met l'ampoule dans la douille avec le courant électrique, ça s'allume. Il ne suffit pas simplement de le savoir. Il faut le faire. C'était un peu plus compliqué dans le domaine de Michel. Mais dans ce que nous apprenons de Dieu, nous avons aussi à le mettre en pratique. Dans le Lévitique, qui n'est pas le livre le plus facile, pour ceux qui commencent à lire la Bible et puis qui commencent par le début, quand ils arrivent dans le Lévitique, en général, ils ont l'impression de conduire une voiture et de rentrer dans un mur. Le Lévitique, ce n'est pas simple. Mais il y a des grandes vérités dans le Lévitique. Au chapitre 25, verset 18, « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique. » Deux fois. Ça, c'est Moïse, vous savez. Le Lévitique, ça a été écrit par Moïse. Et Moïse était bègue. Donc, moi, je pense que ça vient de là, ce texte-là. Donc, « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique. » Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Mettez les pensées de Dieu dans votre vie et vous serez en sécurité dans votre pays intérieur. En sécurité. Un peu plus loin ou un peu avant, dans le Lévitique toujours, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse pas. Waouh, c'est fort ça. C'est-à-dire que si tu ne mets pas en pratique le processus ou les valeurs du royaume de Dieu dans ta vie, le pays où Dieu veut te conduire te vomira. Oui, je sais, ce n'est pas une image très très belle, mais c'est vraiment la réalité. Être simplement dans l'idée d'avoir la foi, et puis tout le restant n'a pas d'importance. La marche au quotidien, il suffit simplement de croire. Mais pas de s'engager dans une connaissance de Dieu, un apprentissage de ce qu'il est, de ce que sont les valeurs de Dieu pour son royaume. Et donc, pour ma vie, si je ne vis pas cela, le pays dans lequel Dieu veut me faire entrer me vomira, c'est-à-dire qu'il me rejettera. Ouais. Combien de chrétiens, en se disant « Oh, la foi, ça suffit, suffit de croire », mais ne s'engagent pas dans un apprentissage de qui est Dieu, qui peut être Dieu pour eux. Ça me fait penser à certains conjoints. Je parle souvent des conjoints plus que des conjointes, que je prépare, avec lesquels j'ai un dialogue, ou que je vois, y compris dans l'Église, qui se préparent au mariage avec tellement de bonheur, de joie, etc. Et je pense à quelqu'un de notre famille, qui n'était pas forcément chrétien, mais qui s'est marié le lendemain du mariage. Le mari a affiché qui il était. Et ce n'était plus les mêmes valeurs. Le lendemain du mariage, moi je l'ai connu à cette période-là. Et parfois pour les chrétiens, il y a une alliance qui est faite. Et une fois que l'alliance est faite, je suis sauvé. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Et tu fais quoi maintenant ? oh ben plus rien, j'attends que Jésus revienne, ou bien quand je mourrai, il m'enlèvera. Et d'ici là, qu'est-ce que tu vas vivre avec lui? Et il en va de certains chrétiens comme de certains conjoints qui disent, moi maintenant que j'ai l'alliance, c'est le principal. J'ai pas envie de la connaître et de savoir qui elle est. Non, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir quel est ses besoins profonds, l'avenir qu'elle souhaiterait vivre pour elle-même. Non, ça ne m'intéresse pas. On est mariés maintenant. J'ai fait l'essentiel. Ça nous fait sourire, hein? J'ai entendu ces propos-là combien de fois, et en ce moment, c'est tellement des propos erronés dans la conception de la vie de couple. Mais c'est souvent aussi la manière dont on se conduit avec Dieu. J'ai l'alliance, je suis sauvé, je crois qu'il est mort à la croix. Oui, mais et maintenant, est-ce que tu veux apprendre à le connaître et pratiquer ce qui est juste ? Mettre en pratique. Dans Deutéronome 5:1, Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les en pratique. » Ouais, je crois que tout est dit là. C'est clair, non ? Il y a besoin d'explications. Apprenez-les, mettez-les en pratique. Alors, il rajoute « soigneusement en pratique ». Soigneusement, être attentif dans le détail. Comme dit le proverbe, le diable se cache dans les détails. Soigneusement en pratique. Oh, mais en gros, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, non, c'est pas en gros. Est-ce que tu es prêt à ce que le Saint-Esprit te conduise pour mettre soigneusement en pratique les valeurs et les pensées de Dieu pour ta vie? Alors, mettre en pratique, j'irai à 5, et je terminerai là-dessus rapidement, juste 5 citations. Pour mettre en pratique, il ne faut pas tarder. Quand le Saint-Esprit nous dit de mettre en pratique des choses qui sont justes, il faut les faire immédiatement. Ça, c'est la première règle. Il ne faut pas repousser. Il ne faut pas procrastiner. Ouh là là là, moi, je suis un spécialiste de la procrastination. Quand Dieu me parle, je vais réfléchir. J'attends. Il faut qu'il me confirme. Et puis, si Jean-Louis ne prophétise pas sur ce point-là, précisément, dans les 10 dimanches qui viennent, Je vais attendre que Juliette s'y mette. C'est ça, hein ? Mettre en application tout de suite ce que Dieu attend de nous. Pour mieux apprendre, il faut utiliser toute la mémoire que l'on a, c'est-à-dire se rappeler constamment de ce que Dieu attend de moi. Et la mémoire, elle est tirée de la parole de Dieu qui se trouve en moi. Comment je sais ce que Dieu veut pour moi ? C'est au fur et à mesure de l'imprégnation de mon intelligence par la parole de Dieu que les valeurs de Dieu deviennent essentielles. Utilisez la mémoire de la parole en moi. S'il n'y a pas de parole, vous savez ce que ça veut dire ? C'est « Monsieur le professeur, vous ne l'avez jamais dit, ça ? Ça ne marche pas, mais vous ne me l'avez jamais dit ? Ah, mais mon cher, tel cours à telle date, etc. Je l'ai dit. » Ah, moi, j'ai pas entendu. Monsieur le pasteur, ça, vous l'avez jamais dit, que la parole ne m'a jamais dit. Mais tu l'as lu? Ah, bah non, j'ai pas le temps. Quelle est la mémoire en moi de la parole de Dieu? Pour apprendre et mettre en pratique, il faut que ce que j'apprends m'intéresse. Est-ce que vous êtes intéressé par les mystères de Dieu pour vous et pour votre vie? L'apprentissage que j'apprends n'est pas définitif et une fois que je l'ai reçu, ça s'arrête. Toute ma vie vient, brique après brique, construire mon apprentissage sur ce que j'ai appris et reçu. Je ne sais jamais quel âge j'ai, moi. J'hésite toujours. 66. C'est bon. 66. J'ai toujours pas fini d'apprendre. Et Michel non plus. Il est plus vieux que moi, donc je me dis, je le regarde, je dis, s'il a pas fini, il faut que je continue aussi. Est-ce que vous avez fini d'apprendre ce que Dieu veut pour vous? Et puis, le dernier point, pour apprendre, il faut cultiver la motivation à apprendre. Cultiver la motivation. La motivation, c'est avoir les yeux sur ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui et avoir le regard sur, voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter pour demain ? De quoi ça va me libérer et de quoi ça va m'enrichir ? Est-ce qu'on est prêt à vivre cette dimension-là ? Alors, je vous dis simplement, ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu, pratiquez-le avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons laisser ta parole là aussi s'installer en nous. Et nous te prions pour que ton Esprit Saint dans chacune de nos vies ce matin puisse rendre vivant tout ce processus qui vient de toi, afin que nous découvrions et que nous vivions en paix avec toi, avec nous-mêmes et avec le monde dans lequel tu nous as placés. Amen.